Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
On l'appelait volontiers le cuisinier du siècle ou encore le pape de la gastronomie. Les superlatifs ne manquent jamais pour présenter Paul Bocuse, une figure de notre patrimoine culinaire. Alors en 2026, la France commémore le centenaire de la naissance du chef disparu. En 2018, cet anniversaire est l'occasion de revenir sur son héritage immense et de se demander s'il y a finalement un avant et un après Paul Bocuse dans la manière de cuisiner, mais aussi dans la façon de penser et de faire rayonner la cuisine française. Alors pour évoquer cette personnalité hors norme, son influence et la place qu'il occupe encore aujourd'hui dans notre imaginaire gastronomique, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Robert Pitt. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, géographe et spécialiste de la gastronomie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, on ne peut pas parler de Paul Bocuse sans évoquer son terroir. Paul Bocuse est né en 1926 dans la région lyonnaise, dans le petit village de Collonges au Mont d'Or, déjà un nom qui fait frétiller les narines. Cet ancrage familial lyonnais, c'est important de le souligner parce qu'il le revendiquera toute sa vie et dans sa cuisine aussi.
Alors, il faut peut-être évoquer ce village de Collonges au Mont d'Or. Les Monts d'Or, c'est pas vraiment une montagne, c'est des hautes collines qui sont au nord de Lyon, au bord de la Saône. On produit d'ailleurs un fromage qui s'appelle le Mont d'Or, qui est délicieux, mais qui n'est pas très répandu. On en trouvera très rarement à Paris. Et c'est au bord de la Saône. Et la Saône est pleine de poissons de rivière, en particulier des petits gardons qui se servent en friture. Et la famille de Bocuse possédait cette auberge au bord de la rivière où on servait du vin blanc du Mâconnais, tout simple. Et puis des petites fritures de poissons de la Saône. Et puis, dès qu'on franchit la Saône, on est dans un autre terroir, un double terroir formidable. Au nord, c'est la Bresse. Et la Bresse, c'est le terroir magique des volailles. Depuis le XVIIe siècle, on engraisse des volailles en Bresse, qui est un terroir où pousse le maïs et les céréales, et ce qui permet d'engraisser des volailles qui ont un goût absolument merveilleux. Et on a sélectionné une race qui est la race tricolore, avec plumes blanches, crête très rouge et pattes bleues, donc le blanc-rouge. Et c'est un pays de crème aussi, de beurre, donc magnifique pour la cuisine. Et la poularde de Bresse, une des recettes majeures, se prépare avec une sauce à la crème. Et au sud, toujours sur la rive gauche de la Saône, donc en face de Collonges au Mont d'Or, c'est la Dombe, qui est une région alors beaucoup plus déshéritée, pauvre, qui était longtemps marécageuse. C'est un pays où maintenant il y a beaucoup d'élevage, quelques forêts, et surtout des étangs que l'on pêche. Ce qu'on appelle pêcher, c'est-à-dire que pendant 2 ans ou 3 ans, l'espace est en étang, puis après on vide l'étang et on récupère le poisson. Et donc ces poissons sont des poissons extraordinaires, dont le brochet, lequel est la base d'une des recettes majeures de la grande cuisine lyonnaise, qui est la quenelle de brochet, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'arêtes qu'il vaut mieux réduire en pâte la chair. Mais il faut pas la gâcher, il faut qu'elle ait vraiment le brochet a un goût très 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 fin, donc avec de la mie de pain et de la crème, mais que le brochet soit bien dominant, et on fait une sauce avec, qui est une sauce alors qui est originaire d'un petit peu plus loin dans le Bugey, qui est la sauce nantois, avec beaucoup de queue d'écrevisse. Et la Dombe, c'est aussi une région où il y avait, presque plus maintenant hélas, mais il y avait beaucoup de grenouilles, et donc les grenouilles, ça fait partie aussi de la cuisine lyonnaise.
Bon, si je comprends bien, il est né au bon endroit.
Et il est né the place to be, comme on dit en anglais. C'est l'endroit où il fallait être pour bien manger. Mmh. Et il a été formé par... Il y a une tradition à Lyon de cuisine populaire bourgeoise, qui était une cuisine faite par des maires, parce qu'il y avait beaucoup d'artisans à Lyon, des canuts, mais aussi de toutes sortes d'artisans qui n'étaient pas très très riches, mais qui avaient quand même quelques moyens pour manger le midi hors de chez eux. Et c'était une cuisine de femmes. Les établissements s'appellent des bouchons à Lyon. D'ailleurs, on y buvait beaucoup. Et c'était une cuisine de femmes, et on appelait les cuisinières lyonnaises des maires. Et il y a quelques maires très célèbres, dont une qui a formé Paul Bocuse, qui était la maire Brasier, qui avait deux restaurants, un à Lyon, près derrière l'hôtel de ville, et puis un autre au col de la Luère, dans les monts du Lyonnais, qu'elle ouvrait l'été. Et là, c'était une femme d'une très grande personnalité, très sévère, mais extrêmement généreuse et affectueuse avec les jeunes commis, et elle a formé Paul Bocuse comme plein d'autres gens, comme Fernand Point, par exemple, et bien d'autres.
Fernand Point, qui était, je crois, le mentor aussi de
Paul Bocuse. De Paul Bocuse a travaillé aussi chez Fernand Poix.
Donc il était ambassadeur de la cuisine lyonnaise avant d'être ambassadeur de la cuisine française. Il descend, Paul Bocuse, d'une dynastie de cuisiniers qui remonterait, la légende dit, jusqu'à 1765.
Oui, mais c'était pas des cuisiniers de luxe, c'était des aubergistes qui servaient des vins simples. Alors après, au reste, quand Paul Bocuse a fait de son auberge familiale un restaurant étoilé et mondialement connu, il a fait venir des vins de partout, les meilleurs vins de Bourgogne, les meilleurs vins des Côtes-du-Rhône, un peu moins de Bordeaux, parce qu'il y a quand même un conflit en France entre Bordeaux et Bourgogne. On ne va pas chez Paul Bocuse pour boire du Bordeaux, mais on boit des grands Côtes-du-Rhône, des grands Condrieux, des grands Ermitages, des grandes Côtes Rôties, et évidemment tous les vins de la Côte d'Or, de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, des Chambertins, des Claude Vougeot, des Montrachet, voilà. Et chez Paul Bocuse, il y a une cave absolument prodigieuse de tous ces vins-là. Mais avant, au temps de sa mère et de ses ancêtres, on ne servait que des petits vins blancs du Mâconnais et du Beaujolais. Paul Bocuse, d'ailleurs, avec un négociant en vin du Beaujolais, a mis à l'honneur le Beaujolais dans les années 60, et en particulier le Beaujolais nouveau, ce qui a nuit un peu à ce vin, parce qu'on l'a donné dans la facilité, on a fait des vins très levurés, qui avaient des parfums un peu bizarres de bonbons anglais. C'est pas lui qui en est responsable, mais beaucoup de gens ont profité de la mode du Beaujolais nouveau pour faire un peu n'importe quoi, et donc aujourd'hui, le Beaujolais est en crise, alors qu'on peut faire des vins merveilleux en Beaujolais.
En tout cas, il descend d'une famille d'aubergistes, mais lui, Paul Bocuse, il n'est pas un simple maillon de cette chaîne générationnelle. Il a vraiment impulsé une nouvelle façon de cuisiner. On dit qu'il est l'un des représentants de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors, cette expression « nouvelle cuisine » a été inventée par deux journalistes
des critiques
qui n'étaient pas d'ailleurs spécialisés dans la gastronomie au départ, qui le sont devenus, et qui sont devenus de vrais papes de cette nouvelle cuisine. C'était Henri Gault et Christian Millot, qui avaient des chroniques dans Paris Jour, je crois, et puis ensuite qui ont créé un guide et un magazine, le Gault Millot, et qui ont essayé de débarrasser la cuisine classique, la grande cuisine classique française, d'un certain nombre d'excès en matière de sauces trop cuites,
trop lourdes,
de gratinage, d'essayer d'alléger un peu en beurre et en crème, mais pas complètement, parce que quand on va chez Paul Bocuse, ou y compris dans le restaurant actuel, malgré sa disparition, il y a toujours des feuilletages, des sauces au beurre, des sauces à la crème importantes. Donc, de faire moins cuire les légumes, par exemple, de remettre à la mode les légumes verts. Je pense aux épinards, par exemple, qui étaient un peu passés de mode. Je pense aux asperges servies plutôt al dente, croquantes.
Pour revenir à cette nouvelle cuisine qui est lancée dans les années 70, est-ce que Paul Bocuse se revendique être de ce mouvement-là, ou alors il prend
Paul Bocuse était un homme très expansif, avec un humour ravageur, quelques défauts aussi, en particulier de sa vie privée et sentimentale, puisque c'était un trigame revendiqué.
Oui. Il avait trois femmes.
Il avait trois femmes, et pour ne pas les fâcher, quand il faisait un beau cadeau à l'une, il faisait le même cadeau aux deux autres. Bon, il y a eu plusieurs livres parus sur cette affaire, mais peu importe, je dirais que c'était quelqu'un d'extrêmement expansif, joyeux, pouvait être très drôle. Il s'est fait photographier un jour dans Paris Match à cheval, devant son restaurant, en tenue de cuisinier avec sa toque, avec une grande lance dans la main, dans laquelle étaient enfilés 4 ou 5 hamburgers McDonald's, tellement il voulait lutter contre cette malbouffe venue d'Amérique. Il a été considéré par beaucoup de chefs, alors certains ne l'aimaient pas, mais par beaucoup de chefs comme vraiment le pape de cette nouvelle cuisine, cuisine de terroir aussi, où il a réhabilité un certain nombre de plats qui n'était plus à la mode.
Mais je crois que par la suite, il a pris ses distances avec, en tout cas avec les deux journalistes à l'origine de cette expression nouvelle cuisine.
Gault et Millot lui devaient une partie de leur reconnaissance et de leur succès aussi. Parce que c'était ensemble qu'ils travaillaient. C'est des journalistes qui ont eu un nez extraordinaire de mettre en avant la personnalité des cuisiniers, donc les frères Troisgros par exemple, et Berlin en Alsace, Michel Guérard, quelques chefs vraiment emblématiques qu'ils ont propulsé au pinacle et qu'ils leur ont bien rendu aussi, parce que c'est un échange entre le critique et le cuisinier.
Échange de bons procédés.
De bons procédés.
Jean-Robert Pitt, il est temps de donner fin aux auditeurs. Quelles sont les plats signatures qui ont fait la renommée de Paul Bocuse ? Je crois qu'il y a une volaille de Bresse.
Alors, Paul Bocuse a maintenu à sa carte, et ça l'est toujours aujourd'hui, malgré, bien qu'il ait disparu, le restaurant existe toujours, appartient à son fils, et il y a toujours quatre meilleurs ouvriers de France à la tête des cuisines. C'est un plat inventé par la mère Brasier, de la vieille tradition lyonnaise, mais amélioré par la mère Brasier, qui est la poularde en vessie. C'est-à-dire une poularde de Bresse cuite dans une vessie.
Dans une vessie de porc.
De porc, et cuite dans un bouillon très riche, aromatisé. Aux légumes. Et donc, quand on apporte sur la table, vous avez cette espèce de ballon, gros ballon,
dans
lequel il y a la vessie qui a gonflé dans le bouillon, dans lequel il y a la poularde. Et donc, on ouvre la vessie devant le client, et là, vous avez le fumet qui arrive. Alors, la poularde, elle, est demi-deuil, c'est-à-dire qu'on a glissé sous la peau des lamelles de truffes partout tout autour. Donc, quand vous voyez, elle est marbrée de noir. C'est très très beau à voir, ça sent très très bon, et on sert avec ça une sauce suprême, alors à partir d'un fond de volaille et très beurré et crémé, et enrichi de truffes, et s'il n'y a pas de truffes, on met des morilles. Mais c'est un très très beau plat qu'on sert avec des légumes cuits, ceux qui ont cuit dans le bouillon, donc c'est un plat à la fois roboratif, mais si on ne prend pas trop de sauce, c'est en fait une poule au pot, mais une poule au pot très améliorée. Mais ça, ce n'est pas une invention de Paul Bocuse, il l'a perfectionné, de même que un autre plat de prédilection de Paul Bocuse, qui est le saumon en croûte.
Oui.
Il le faisait avec d'autres poissons aussi. Donc, c'est un poisson qui est cuit en pâte feuilletée avec une sauce choron, c'est-à-dire une sauce au beurre enrichie d'un peu de tomate, de pulpe de tomate.
Oui.
Et c'est absolument merveilleux comme plat. C'est pas très léger et c'est pas de la nouvelle cuisine basse calorie. Celui qui a été le plus loin dans l'invention de la haute cuisine basse calorie, c'est Michel Guérard, qui avait écrit, en même temps, il était très ami de Paul Bocuse.
Hein, c'était
un livre qui s'appelle, oui, peut-être 2-3 ans de moins que Paul Bocuse, mais il avait inventé un concept, lui, la grande cuisine minceur. Vous pouvez maigrir en mangeant très 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 bien. Et donc, son restaurant était à Eugénie-les-Bains, qui est un lieu de cure thermale, qu'il a transformé avec sa femme en un lieu de cure thermale, en particulier pour maigrir.
Ça marchait vraiment ?
Ça marche très très très, très bien,
ça marche
c'est
bien.
Magnifique. Mais Michel Guérard faisait aussi la cuisine classique. Si vous faisiez la cure chez lui, vous pouviez choisir la cuisine minceur dans une salle à manger spéciale, ou la grande cuisine au beurre et à la crème et à la graisse d'oie, avec foie gras, etc. Mais le plafard de Paul Bocuse, c'est quand même la soupe Élysée. Peut-être on peut en dire un mot.
Bien sûr. Une soupe qu'il crée en 75.
Il y avait déjà eu des chefs décorés par le président de la République. Par exemple, Escoffier a reçu la Légion d'honneur en 1919 à Londres. Il était chef dans un hôtel de Londres. Le président Poincaré vient à Londres pour fêter le premier anniversaire de la victoire et réunit dans un palais londonien la communauté française. Parmi lesquels il y a Escoffier, grand chef extrêmement réputé, qui n'est pas au courant de ce qui va se passer. Et pendant le discours et la réception de la communauté française, le président de la République appelle Escoffier et je vous remets la Légion d'honneur, donc applaudissements, tonnerre d'applaudissements. Et il sera officier de la Légion d'honneur un peu plus tard, quelques années plus tard. Cette fois-ci, c'est Édouard Herriot, président du Conseil, donc Premier ministre, qui lui remet au Quai d'Orsay, dans les grands salons du ministère des Affaires étrangères. Il y a déjà des chefs qui avaient été honorés par la République à son plus haut niveau, mais Valéry Giscard d'Estaing, face au succès de Paul Bocuse, donc en 75, décide de lui remettre la Légion d'honneur, mais non pas dans son restaurant ou au cours d'un déplacement à Lyon. Valéry Giscard d'Estaing dit à Paul Bocuse, je vais vous la remettre à l'Élysée. Venez avec quelques-uns de vos amis, vous les choisissez, 7 ou 8 cuisiniers, je les recevrai à ma table. Il y avait Madame Bocuse aussi, l'officielle, la légitime, si je puis dire.
Raymond, je crois.
Chacun des chefs a fait un plat de ce repas, qui, tout ça est bien connu, ça se traîne partout, le menu a été publié plein de fois, et Paul Bocuse a créé pour cette occasion un plat merveilleux qu'il a appelé la soupe VGE, Valéry Giscard d'Estaing, qui maintenant s'appelle la soupe Élysée. Cette soupe, c'est à partir d'une brunoise de légumes coupés en tout petits morceaux, puis sautés au beurre, puis cuits au bouillon avec du fond de volaille, dans laquelle il a ajouté des petits morceaux de volaille de Bresse très petits à l'intérieur de cette soupe, plus beaucoup de truffes en quartier, pas en lamelles, mais en quartier croqué, vous voyez, un peu que... Et tout ça, une fois cette soupe constituée, on la met dans une soupière ronde, qui sert à Paris ou à Lyon pour les soupes à l'oignon, par exemple. Ouais. Et par-dessus cette soupière, on met une abaisse de pâte feuilletée et on met ça au four. Et à ce moment-là, avec la vapeur de la soupe, la pâte feuilletée non seulement cuit et devient dorée, mais elle gonfle comme une montgolfière. Donc la soupière devient toute ronde, ça ressemble exactement à une montgolfière. Mmh. Et quand on vous la porte brûlante sur la table, l'idée, c'est que vous mettez votre tête, éventuellement avec une serviette sur la tête, comme pour les ortolans, au-dessus de la soupe, et avec votre fourchette, vous cassez la pâte feuilletée pour que les miettes tombent dans la soupe, et là, vous avez l'odeur de la truffe qui vous arrive, donc c'est
un régal.
Le petit Jésus en culotte de velours. Hein.
Vous l'avez déjà goûté, cette soupe ?
Oui, bien sûr, plein de fois.
Succès immédiat, j'imagine, auprès de vous et du grand public.
C'est pas si facile que ça à faire pour que ce soit réussi. Chez Paul Bocuse, on la sert, ils en servent. Tous les clients viennent pour manger ça, évidemment. Mmh. C'est réellement très, très, très bon, oui.
Et je crois que vous avez eu la chance de le rencontrer, Paul Bocuse.
Oui, plusieurs fois, oui. Alors, c'était un personnage truculent, hein, vraiment
hors
truculent,
norme,
haut en
ouais.
couleur, hors norme. Tony Truant, qui. Il n'était pas toujours dans sa cuisine. Alors, quand il était à Collonges, il venait beaucoup en salle pour saluer les gens, et puis il voyageait énormément, parce que c'était l'ambassadeur de la cuisine française, il a été invité en Chine, au Japon, partout dans le monde entier, et il a ouvert des restaurants aux États-Unis, son fils d'ailleurs, Jérôme, vit surtout aux États-Unis, et il a un très grand restaurant à Epcot, donc il était souvent en voyage, alors quelques-uns, il y a des critiques qui ne l'aimaient pas, ils disent, oui, je sais, on me reproche d'être souvent en dehors de mon restaurant, mais je connais plein de restaurants où le chef est toujours là, et c'est toujours mauvais.
Il avait le sens de la formule. Mais est-ce qu'on peut oser dire qu'il doit sa postérité aussi grâce à son sens des affaires?
Bien sûr, c'est un génial homme d'affaires. Il a ouvert des bistrots à Lyon qui sont formidables. Il y en a un à Paris aussi, dans l'hôtel du Louvre, au rez-de-chaussée de l'hôtel du Louvre, place du Palais Royal.
Oui.
C'est la cuisine un peu simplifiée, c'est la cuisine de brasserie, mais lyonnaise, classique, où vous avez très bonne quenelle de Brochel, bonne volaille de Bresse, rôti ou à la crème. C'est une cuisine dont on peut dire, moi ça me gêne pas, hein, mais qu'elle ne s'est pas énormément renouvelée. C'est une cuisine de tradition, on y va pour manger ses plats lyonnais. Il faut prendre toujours du fromage, comme Bria Savarin le recommandait, et le fromage roi de Lyon, c'est le Saint-Marcellin. C'est un petit fromage de vache, mais très moelleux. Faut pas qu'il soit trop fait, ni trop frais. S'il est trop frais, c'est un peu plâtreux et un peu acide. S'il est trop fait, ça devient piquant. Et donc, Paul Bocuse le faisait affiner par une de ses grandes amies, Renée Richard, qui tient toujours, c'est sa fille maintenant, qui tient toujours une grande fromagerie aux Halles de Lyon, à la Part-Dieu, qu'on appelle les Halles Paul Bocuse, d'ailleurs. Et le Saint-Marcellin, c'est un... Quand il est vraiment à point, mais ça dure peu de temps, hein, c'est un jour ou deux. Avant, c'est pas bon, après, c'est pas bon. Et là, ça va avec le vin rouge, mais sinon, le vin, c'est encore mieux avec du vin blanc. Vous prenez un très bon pouilly fuissé avec, c'est magnifique, le Saint-Marcellin.
Alors, ce qu'on sait peut-être moins de Paul Bocuse, c'est qu'il s'est engagé dans les forces françaises de la libération lors de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été d'ailleurs grièvement blessé au cœur, près du cœur, je crois. Et donc, l'histoire dit qu'il s'est vu transfuser beaucoup de litres de sang américain. Et de cet épisode, il conservera une amitié pour ses sauveurs
atlantiques. Ça fait penser à l'histoire de Georges Brassens. Vous savez, Georges Brassens a beaucoup chanté contre la maréchaussée, contre la police et tout ça. Et puis, un jour, sa maman est tombée malade. Elle a été transfusée. À l'époque, on savait d'où venait le sang. Et elle a reçu du sang de policiers. Donc, il a dit, maintenant, il y a du sang de policier dans la famille. Et il a arrêté de chanter toutes les chansons dans lesquelles il critiquait la maréchaussée.
C'est vrai,
ouais. Voilà. Mais cette histoire de Paul Bocuse est tout à fait magnifique. C'était vraiment un défenseur de la France et de l'esprit français. Excessif, c'est un personnage... C'est Falstaff en cuisine, Paul Bocuse. Mais avec beaucoup d'humour, je vais vous raconter une histoire, une anecdote vécue. Un jour, je vais à Lyon. Non, le TGV était archi bourré. Donc je m'assieds à ma place et j'entends des ronflements effrayants, mais vraiment effrayants, qui venaient de derrière moi. Donc je me suis levé, c'était Paul Bocuse et Pierre Troisgros, qui étaient côte à côte, qui revenaient, un autre grand chef de Roanne, qui revenaient de Paris où ils avaient dû bien vivre le midi. Donc ils faisaient une petite sieste, mais une sieste extrêmement bruyante. Donc c'était, si j'avais su, j'aurais pris une photographie, mais c'est une scène inoubliable pour moi. Paul Bocuse aussi vivait là, dans un peu en tribu avec ses amis cuisiniers de sa génération. Il adorait faire des fêtes, des blagues. blagues, des choses inimaginables, d'une générosité absolument folle.
C'était un très bon vivant. Il est décédé donc en 2018. Aujourd'hui, on peut toujours s'offrir un menu Paul Bocuse, oui, dans son restaurant, situé d'ailleurs dans sa ville natale.
Oui, à Collonges, au bord de la Saône, au pont de Collonges.
Alors si on veut le menu grande table, je crois qu'il faudra quand même débourser pas moins que 230 €.
Oui, bah oui, mais vous avez à Paris des restaurants où pratiquement vous êtes obligé de dépenser 1 000 €.
Beaucoup plus, oui.
Beaucoup plus, c'est cher. Mais moi, je suis un professeur retraité, donc je ne peux pas aller tous les jours dans les grands restaurants, mais ça m'arrive de faire quelques économies pour aller dans ces restaurants, mais parce que c'est mon goût aussi, genre Paul Bocuse ou l'Auberge de Lille, qui est un peu l'équivalent en Alsace, tenu par la famille Héberlin. Et là, vous avez des menus à peu près dans ces prix-là. Il y a des vins très très chers, mais il y a aussi des vins tout à fait abordables. Donc, il faut faire une tirelire dans un petit cochon, et puis, de temps en temps, faire la fête, ça vous remonte le moral.
Ça en vaut le détour. C'est ma dernière question et je vous repose la question que je me posais dans l'introduction. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Paul Bocuse ?
Oui, sûrement, parce qu'en plus, il a mis les cuisiniers sur le devant de la scène. Il y avait eu Escoffier, mais Escoffier n'était pas connu du grand public. Le premier chef qui a été connu du grand public, c'était Oliver, Raymond Oliver, qui tenait le Grand Véfour et qui a eu une émission de télévision. Dans les années 50, en noir et blanc, à l'époque où peu de gens avaient la télévision, mais il apprenait à cuisiner. Alors c'était les femmes, c'était une émission de l'après-midi, pour les femmes qui restaient à la maison, pour beaucoup encore à l'époque, et lui a commencé à être un peu populaire. Son restaurant avait 3 étoiles au Palais Royal, le Grand Véfour. Mais Paul Bocuse, lui, alors la télévision était beaucoup plus répandue, la presse en couleur, etc., a été réellement flamboyant. Au moment de sa Légion d'honneur, il y a eu des articles partout dans la presse sur cet événement. Et Giscard d'Estaing s'est fait aussi un peu sa publicité, parce que ça a fait sourire tout le monde. Comme Giscard apparaissait comme quelqu'un d'un peu snob, un peu hautain, le fait de recevoir des cuisiniers à sa table, et Madame Giscard d'Estaing était là aussi, qui n'a jamais fait la cuisine de sa vie, mais qui ils les ont reçus avec beaucoup de chaleur. Et donc ça a été un petit moment populaire. Bien sûr pour Paul Bocuse, mais pour Giscard aussi. Derrière sa faconde et son côté extravagant et flamboyant, parfois, je pense qu'il y avait une véritable humilité de Paul Bocuse face à deux choses, le produit de base de sa cuisine, et le client. Le client était roi pour lui. Aujourd'hui, vous avez hélas un certain nombre de chefs pour lesquels, certes, le produit est important, mais ils utilisent tellement de produits. Le but est d'étonner, mais toujours par la nouveauté. Donc c'est une espèce de provocation souvent dans la cuisine d'aujourd'hui. Paul Bocuse était parfois provocateur, mais plutôt par ses blagues et ses propos que par sa cuisine. Aujourd'hui, le client est censé s'adapter à l'immense talent du chef, ce qui me paraît parfois un peu ridicule. Je pense que le chef doit être humble et attaché essentiellement à faire plaisir à son client.
Merci beaucoup Jean-Robert Pitt. J'ajoute que vous avez écrit la notice sur Paul Bocuse pour France Mémoire, qui est disponible sur le site. On mettra tous les liens sur la page de notre émission. Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.